Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Moscou reconnaît désormais la mort de 89 soldats russes tués dans une caserne ciblée par des tirs de missiles ukrainiens dans la nuit de la Saint-Sylvestre. L'opinion publique russe est très en colère contre ses responsables militaires. Question, Vladimir Poutine est-il fragilisé par les multiples revers de son armée en Ukraine? L'Info C'est Clair est intitulé « Armée russe humiliée, Poutine fragilisé ». Nos invités, Isabelle Lasserre, vous êtes correspondante diplomatique pour Le Figaro, ancienne correspondante en Russie, à lire ce matin dans Le Figaro cet article sur cette frappe ukrainienne qui ébranle l'armée russe. Pascal Boniface, vous êtes géopolitologue, directeur de l'IRIS. Je signale aujourd'hui la sortie de l'édition 2023 de votre livre « 50 idées reçues sur l'état du monde ». C'est aux éditions Armand Collin. Et puis Nicolas Tonnet, vous êtes journaliste européen, spécialiste de la Russie, co-auteur avec Anastasia Kirilenko du documentaire « Poutine, le parrain. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, je l'ai dit, l'opinion publique russe est très en colère après l'attaque d'une caserne dans le Donbass lors de la nuit du Nouvel An. Moscou revoit à la hausse le bilan et parle et reconnaît désormais 89 soldats tués. C'est en tous les cas la plus lourde perte jamais reconnue par la Russie depuis le début de cette guerre en Ukraine. Je vous propose de revoir ce sujet de Maryse Burgot.
Comment l'armée russe a-t-elle pu perdre autant d'hommes en quelques secondes? Ce collège servait de dortoir pour les soldats envoyés dans le Donbass occupé. Voilà ce qu'il en reste. Deux étages soufflés après les tirs de plusieurs missiles ukrainiens. Une hécatombe, c'est la frappe de trop. Elle suscite la colère, y compris parmi ceux qui d'habitude soutiennent le Kremlin. Des reporters de guerre russes dénoncent le fait que les soldats dormaient ici, à côté des munitions entreposées. Ces photos du bâtiment avant et après la frappe parlent d'elles-mêmes. Des blogueurs, normalement pro-russes, fustigent l'incompétence du commandement de l'armée.
Ces personnes qui portent des épaulettes, qui sont payées par l'État et qui ont été formées dans des écoles militaires, sont soit des crétins, soit des traîtres qui travaillent pour l'ennemi.
La colère et le deuil des habitants de Samara, d'où venaient la plupart des victimes. Lors de cette cérémonie, tous ont à l'esprit les coups de fil de bonne année passés par leur père, leur fils. Ce sont peut-être ces appels téléphoniques qui ont permis aux Ukrainiens de géolocaliser le bâtiment. La frappe a eu lieu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Des Ukrainiens qui ne se privent pas de publier cette vidéo cynique. Guirlande de Noël sur ce HIMARS, ce serait avec ce lance-missile fourni par les Américains que le bâtiment aurait été frappé.
Nicolas Tonnef, on sait que la Russie n'est pas la championne de la transparence. Là, il reconnaît... Alors, 89 morts, enfin ils ont revu à la hausse le bilan de 89 morts. Pourquoi cette transparence, si je puis dire, ou un début de transparence de la part du Kremlin sur les morts lors de cette opération spéciale, pour reprendre le phrasé du Kremlin?
Je crois qu'au bout d'un moment, en fait, vous n'avez plus trop le choix. Quand les dégâts sont aussi énormes, comme on le voyait, que tout est relayé par les téléphones portables, ce n'est pas possible de dire qu'il ne s'est rien passé. Et quant au bilan, quand on voit les dégâts également, clairement, il va évoluer pour deux raisons. D'abord, on risque encore de retrouver des corps. Et puis, on le sait, c'est un peu comme pour les accidents de la route. Le jour J, on a deux morts dans une voiture et 4, 5, 6 jours plus tard, les blessés graves décèdent. Et donc, il y aura probablement encore beaucoup plus de morts annoncées dans les jours qui viennent.
On a vu les scènes de ces mères de soldats qui se lamentaient en Russie. Ça leur parle beaucoup, ça, ces morts au combat, C'est quelque chose qui ébranle l'opinion russe.
En fait, à partir du moment où on perd son fils, son enfant ou son mari, spécialement en Russie où la mortalité dans l'armée est extrêmement importante pour des causes stupides, fréquemment. On se souvient des Dyadovchina où il y avait 2000 ou 3000 morts par an. Les Dyadovchina, c'est le bizutage en fait, de l'armée où on a 2000 ou 3000 morts par an sans qu'il n'y ait de combat. Là, clairement, une nouvelle fois, on a l'impression que les officiers, en termes de de gestion de la sécurité sont totalement dépassés. Et tout cela fait effectivement que, au sein des maires qui ont toujours été les combattantes, en fait, contre la stupidité militaire russe, la colère monte. Après, la question, est-ce qu'elle va se diffuser au sein de la société, c'est une autre question.
Pascal Boniface, on a vu dans le reportage des blogueurs s'en prendre aux officiers ou au fonctionnement de l'armée. Qu'est-ce que ça dit du fonctionnement de l'armée ? Il paraît que les jeunes conscrits qui étaient dans cette caserne russe se sont fait repérer dans la nuit en allumant leur téléphone portable à minuit pour souhaiter la bonne année à leur famille. Et c'est ainsi que les Ukrainiens auraient géolocalisé cette caserne.
Oui, il y a vraiment un cumul d'incompétences. Grouper les soldats qui viennent d'arriver, les mettre à côté d'un dépôt de munitions et ne pas leur interdire d'utiliser les portables pour ne pas être géolocalisés. Donc, enfin, toutes les règles, disons, premières de sécurité n'ont pas été respectées. Ces blogueurs qui protestent, ce ne sont pas des pacifistes. Ce sont des gens qui soutiennent la guerre et qui estiment qu'effectivement, elle est menée en dépit du bon sens. On avait plutôt le sentiment qu'avec la nomination d'un nouveau commandement, cette fois-ci, les choses étaient plus professionnelles. Mais non. Et donc, ces mères sont en plus désespérées. C'est que leurs enfants partent, non pas pour défendre la patrie, mais pour servir de chair à canon et pour surtout être mal gérés, ne pas être protégés par ceux qu'ils servent. Et donc, ils ont été envoyés à la mort, effectivement. Alors, pour l'instant, la contestation ne va pas jusqu'à Poutine, mais il ne faudrait pas encore beaucoup. Pour l'instant, Poutine s'en sort parce que ce que l'on dit, c'est que le roi est mal entouré. Le roi est bon, mais ses conseillers sont mauvais, ce qui est la tradition un peu dans tous les régimes autoritaires. Mais si ce type d'événement devait se reproduire, là, Poutine n'aurait pas s'exonéré longtemps, simplement en donnant ses condoléances et en disant qu'il a le cœur brisé par ce qui vient de passer, parce que, in fine, quand même, au bout du compte, il est responsable, puisqu'il est le chef suprême.
C'est vrai qu'Isabelle Lasserre, en février dernier, on parlait d'une guerre asymétrique entre la grande Russie et la petite Ukraine. Et maintenant, on a l'impression d'une guerre parfaitement, presque équilibrée dans le rapport de force, avec des Ukrainiens qui rendent coup pour coup et qui sont capables de cibler des casernes russes.
Oui, c'est logique. En fait, le rapport de force est en train d'évoluer, enfin a évolué depuis le début de la guerre, pour deux raisons. D'abord, parce que les Ukrainiens reçoivent des armes occidentales et de plus en plus...
C'était un lance-roquettes américain, voilà, on l'a vu dans le sujet.
Et de plus en plus moderne, alors que du côté russe, on a un petit peu épuisé les équipements ont vraiment diminué. Maintenant, l'armée russe est obligée de prendre les équipements plus vétustes. Donc, on a ce différentiel d'équipement. Et surtout, la différence, elle est au niveau de la volonté. Enfin, vous savez que gagner une guerre, c'est une question de... Enfin, les équipements et l'armée sont... Enfin, la volonté des peuples est aussi importante que les équipements et l'armée. Or, cette volonté, elle n'a pas faibli depuis le 24 février chez les Ukrainiens qui vivent en fait une guerre existentielle, une guerre patriotique et qui défendent leur pays. Donc ça leur donne cette espèce d'énergie vitale, produit des effets assez forts sur le terrain. Et de l'autre côté, des forces russes et des conscrits russes contraints de rejoindre cette armée, excusez-moi, pour un but, pour une bataille dont ils n'ont pas toujours compris le sens. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, on leur a dit « vous allez combattre les Ukrainiens ». Et les Ukrainiens étaient présentés comme un peuple frère. Non, d'abord
avant. Oui. Qu'il fallait libérer de...
Les frères sont devenus des fascistes en 24 heures, d'une part. Et aujourd'hui, on ne voit pas du tout de victoire militaire sur le terrain en Russie. Donc ça diminue encore plus cette volonté. Donc il y a vraiment un différentiel. Il y a l'incertitude et le flou d'un côté et la détermination de l'autre. D'où cette impression, en fait, de différentiel. Alors, après, il faut relativiser quand même. Hein. C'est-à-dire que si dans 3 mois, les Américains coupent les vivres de l'armée ukrainienne, on pourra voir descendre à la fois cette volonté et la précision de cet équipement et de ces frappes. Et de l'autre côté... la Russie est sans doute en train d'essayer de reconstituer ses forces dans les usines d'armement qui tournent à plein régime et en train de peut-être prévoir une nouvelle mobilisation qui provoquera un afflux de forces russes. Donc il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Même si pour l'instant, l'Ukraine marque des points, Nicolas Tonev.
Oui, absolument. Et puis en fait, c'est dû à plusieurs choses. Pour revenir à la problématique des téléphones, en fait, je pense qu'il ne faut pas incriminer seulement l'utilisation du téléphone. Alors il y a eu un brouillard électromagnétique effectivement plus important qui fait qu'il était facilement repérable par satellite.
Pas les téléphones portables qu'ils ont repérés, c'est le brouillage des téléphones portables.
Le brouillard, en fait, c'est le fait qu'il y a énormément de communication au même moment. Après, il y a du renseignement humain extrêmement important sur Donetsk depuis 2014, depuis que les républiques indépendantistes se sont déclarées comme telles. Il y a énormément d'espionnage, il y a beaucoup de partisans ukrainiens qui donnent de l'info aux Ukrainiens. Donc on ne peut pas seulement impliquer les téléphones, et ce, d'autant moins que sur ce terrain, en fait, que ce soit côté ukrainien ou russe, tout le monde à son téléphone. Tous les soldats ont leur téléphone. Moi, je suis en correspondance avec des officiers ukrainiens qui ont leur téléphone parce que c'est un moyen de communication et c'est un moyen de faire tenir les gens aussi.
Alors, on l'a vu, ces missiles ukrainiens ont été tirés par des lance-missiles, des lance-roquettes américains, si bien que la Russie et Vladimir Poutine en particulier a l'impression et le sentiment de se battre contre l'Occident tout entier. Une impression renforcée par la visite de Volodymyr Zelensky à Washington le mois dernier. Je vous propose de revoir cette séquence et la réaction à Moscou. C'est un sujet de Léo Seux.
C'est une promesse lourde de sens formulée par Joe Biden, l'assurance d'un soutien sans faille des États-Unis à l'Ukraine.
Nous comprenons au plus profond de nous-mêmes que le combat de l'Ukraine fait partie de quelque chose de bien plus grand. Le peuple américain sait que si nous restons les bras croisés face à des attaques aussi flagrantes, le monde sera certainement confronté à de pires conséquences.
Quelques heures avant la rencontre Biden-Zelensky, Vladimir Poutine s'exprime devant les responsables de l'armée.
Ce qui se passe est bien sûr une tragédie commune. Mais ce n'est pas le résultat de notre politique. C'est le résultat de la politique de pays tiers qui ont toujours travaillé dans ce but, dans le but de détruire le monde russe.
La Russie reproche aux États-Unis de fournir des armes à l'Ukraine, notamment le système de défense anti-aérien Patriot, une arme que Vladimir Poutine compte bien contourner.
Concernant le Patriot, c'est un système assez vieux. Il ne fonctionne pas comme notre système de défense russe S-300. Mais nos opposants partent du principe que c'est une arme défensive. Très bien, on va garder ça à l'esprit. Et il existe toujours un antidote.
Pascal Boniface, ce qui est incroyable, et Vladimir Poutine l'a répété lors de ses vœux, c'est qu'il inverse le cours des événements. Il estime que c'est son pays qui a été agressé par les forces de l'OTAN.
Jusqu'ici, c'est quand même la Russie qui a entamé la guerre et qui est rentrée sur le territoire ukrainien avec son armée. Mais à partir, il prend usage de l'aide occidentale à l'Ukraine, qui est une aide qui est d'ailleurs purement matérielle. Il n'y a pas de soldats qui combattent aux côtés des soldats ukrainiens, ça a été dit depuis le départ. Mais cela lui permet de dire que c'est lui qui est effectivement agressé et que la Russie se défend contre le monde occidental qui veut la démanteler. Et c'est une façon, dans la mesure où les Russes ne sont pas extrêmement convaincus de l'utiliser, de se battre en Ukraine, il essaie de les mobiliser en disant qu'ils ne se battent pas en Ukraine, mais pour défendre ses
patrie.
La Russie, en fait, avance sa ligne de défense en Ukraine pour défendre le territoire russe et essayer de reconquérir un soutien qui s'est quand même effrité depuis le début de la guerre. Cette guerre devait être rapide, fraîche et joyeuse. Elle est tout sauf cela. Et donc, Poutine joue celui qui défend sa patrie alors qu'il est matériellement l'agresseur.
Justement, Isabelle Lasserre, voilà, quel est l'état de l'opinion russe face à cette guerre? Est-ce qu'il y a une fatigue parce qu'on voit qu'on n'y arrive pas? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une volonté de vengeance et d'en découdre face à ces multiples humiliations que subissent les soldats russes en Ukraine?
Écoutez, moi, je ne suis pas sur place, donc il est très difficile de savoir, quand on n'est pas sur place, ce qu'est l'état de l'opinion russe. Je pense qu'il est même aussi parfois difficile de le savoir.
Quand on y est.
Voilà, on a des perceptions. On a, par exemple, ce qui est certain, c'est que jusque-là, les mères de soldats, qui jouent un rôle important dans la société russe pendant les guerres, puisque à la fin de la guerre en Afghanistan et aussi pendant la guerre de Tchétchénie, elles s'étaient révoltées contre le pouvoir. Et c'est vrai que Vladimir Poutine avait perdu en popularité à cause de la rébellion des mères de soldats. Jusqu'à présent, cette rébellion avait réussi à être étouffée par Vladimir Poutine, notamment parce qu'il avait débloqué une aide financière qui compensait en fait, qui empêchait les femmes de, enfin, qui avait réussi à convaincre les femmes de ne pas parler. Avec ce qui s'est passé le soir du 31 et ses 400 morts, on a l'impression que ça commence à déborder. C'est-à-dire que on voit bien sur les réseaux sociaux, on voit bien sur les blogs que la colère commence à. Mais les journalistes.
Et la colère, elle est nourrie par. Maintenant, il faut. Y aller plus franchement ou aller maintenant on arrête ces bêtises.
C'est toujours pareil. Il y a dans, en fait l'aile droite de Vladimir Poutine, hein, qui est un peu la droite de Genghis Khan, ouais. Ne serait pas contre une réponse beaucoup plus radicale. Tout ce qui est en fait opposition libérale, pro-démocratique, elle a quitté le pays en deux fois. Une première fois au début de la guerre et une deuxième fois après. La déclaration de mobilisation partielle à l'automne dernier. Il reste une toute petite opposition libérale, surtout en fait concentrée à Saint-Pétersbourg et à Moscou, les deux grandes villes. Et puis l'immense majorité des Russes, pour l'instant, font la politique de l'autruche, préfèrent ne pas voir et en fait ne se retournent contre la guerre qu'à partir du moment où ils sont directement concernés, c'est-à-dire la mobilisation. Et c'est là que ça va être.
Ils ne veulent pas être mobilisés.
Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'ils veulent bien que Vladimir Poutine fasse la guerre à l'Ukraine. Il faut quand même voir le contexte. Ça fait des années et des années et des années qu'ils sont abreuvés de propagande et que Vladimir Poutine leur dit que l'Ukraine est russe et peut-être autrement que russe, parce que ça a commencé quand même en 2014, cette histoire et la guerre. Ce qui va être intéressant d'observer, c'est que Vladimir Poutine a de plus en plus besoin d'hommes, de troupes, surtout au rythme où il les perd sur le terrain, si cet exemple se reproduit. Et donc il est possible, en tout cas c'est la rumeur, annonce une possible mobilisation générale.
Générale.
Oui, et y compris une mobilisation dans les villes. C'est la rumeur. Pour l'instant, c'est la rumeur, hein, mais qui vient de Moscou.
Tous les Russes en âge de combattre seraient appelés à.
Cette rumeur, en fait, vient à la fois de Moscou et du pouvoir ukrainien. Après, on verra. Elle concernerait aussi les grandes villes comme Saint-Pétersbourg et Moscou, qui jusque-là avaient été complètement épargnées. Il y a d'ailleurs une vidéo que j'ai vue il y a deux jours à Moscou, le soir du Nouvel An. Des policiers qui ont essayé d'attraper dans la rue en fait des hommes en âge de combattre pour les prendre de force, et leurs femmes se sont opposées aux policiers et ont commencé à se battre avec les policiers pour empêcher. Ça, c'est la première fois qu'on voyait ça. Si vraiment la mobilisation générale est décrétée par Vladimir Poutine, jusque-là, il avait fait très très attention parce qu'il se souvient des mères de soldats, et il avait en fait décréter la mobilisation, surtout dans les zones très très éloignées de Russie, et puis des zones comme la Yakoutie, etc., qui sont un peu étrangères. L'Ukraine est très très loin pour eux. Et il avait vraiment épargné les grandes villes plus occidentales. Lisez. Si jamais la mobilisation générale est décrétée, alors là, on risque d'avoir une réaction quand même de la population russe d'un autre type.
Nicolas Tonnaf, est-ce qu'on peut dire que les Russes sont blessés dans leur orgueil de voir les difficultés de leur armée russe, mais ils n'ont aucune envie pour autant d'envoyer leur fils au combat pour restaurer le prestige de l'armée rouge?
Alors, blessés dans leur orgueil, c'est difficile à dire. Est-ce qu'ils sont surpris par l'incompétence de l'armée? Je pense un petit peu, sans doute. Après, si on revient en arrière sur les guerres de Tchétchénie... On a vu traditionnellement des généraux russes prendre des décisions absurdes. On a vu des choses extrêmement mal faites. Et il ne faut pas oublier que les guerres de Tchétchénie ont été gagnées à force d'écrasement, en fait.
Ils ont tout rasé.
Voilà, ils ont tout rasé, mais on n'a jamais été convaincu par la justesse tactique, stratégique de l'armée russe. Et puis, il y a toujours, en fait, ce fond de mémoire qui court, parce que c'est une armée aussi de conscrits et d'appelés. Voilà, on sait que ça se passe mal dans les casernes, on sait que les officiers sont mauvais, on sait qu'il y a de la prébande, de la corruption au sein de l'armée. Donc, in fine, l'orgueil... est-ce qu'on a une super armée, on ne comprend pas ce qui lui arrive, je ne crois pas que ce soit si développé que ça. Je pense qu'on est un peu plus dans ce que disait à l'époque du Kursk Viktor Tchernomyrdine, feu un premier ministre, c'est qu'on essaie de faire bien, mais on fait comme d'habitude, c'est-à-dire très très mal.
En tous les cas, ambiance radicalement différente en Ukraine, l'Ukraine qui veut couper les ponts définitivement maintenant avec la Russie, y compris sur le plan culturel. Ainsi, jusqu'à présent, les Ukrainiens avaient tendance à fêter Noël le 7 janvier, comme le font les orthodoxes en Russie. Et bien, désormais, les Ukrainiens veulent fêter, et ils ont fêté Noël le 25 décembre, comme ça se fait en Europe et en Occident. Sujet de Violetta Pedorich.
Habituellement en Ukraine, la plupart des orthodoxes suivent le calendrier russe et fêtent Noël le 7 janvier. Mais cette famille de Dnipro a choisi de le célébrer le 25 décembre. Leur motivation, changer de calendrier pour se rapprocher de l'Europe.
Maintenant, le principal, c'est de fêter Noël avec l'Europe. De supprimer, effacer tout ce qui nous ramène, tout ce qui nous relie à la Russie.
Leur souhait, couper les ponts avec le voisin russe. Car chaque jour dans cette ville, des familles sont frappées de plein fouet par les réalités de la guerre. Presque tous les jours, des femmes enterrent leur fils, leur mari ou encore leur frère. Aujourd'hui, cette grand-mère doit dire adieu à son petit-fils. Il n'avait que 23 ans. Des drames qui ont aussi convaincu ce prêtre de militer auprès de ses fidèles pour changer la date de Noël, afin de célébrer cette fête le même jour que les chrétiens d'Europe.
Changer de calendrier doit nous permettre de montrer que nous sommes civilisés. Car c'est un combat entre un monde civilisé et un autre qui l'est beaucoup moins.
Une position partagée par de plus en plus d'Ukrainiens. Selon un récent sondage, le nombre d'habitants souhaitant changer la date de Noël a doublé en un an. Sur ce panneau, on peut lire « Nous célébrons Noël avec l'ensemble du monde chrétien ». Prendre ses distances avec la Russie, mais aussi soutenir l'effort de guerre. Dans cette ville de l'Est du pays, les habitants ont voté cette année. Pas de décoration, pas de sapin. L'argent économisé ira à l'armée.
La guerre, c'est la guerre. Ici, on n'a pas de sapin. Mais là-bas, dans les tranchées, ils meurent de froid.
Nous sommes d'accord de ne pas avoir de sapin. Nous sommes patients. Nous attendrons la victoire. Et après la victoire, nous aurons un sapin.
Pascal Boniface, c'est incroyable de voir la rupture. Hein. Comme ces deux peuples qui étaient quand même assez frères, désormais, Poutine a jeté dans les bras de l'Union européenne et même de l'OTAN l'Ukraine. Ah,
clairement, il y a déjà une première séparation de corps en 2014. En 2014, Poutine gagne la Crimée, mais il perd déjà l'Ukraine. Ouais. Et le sentiment national ukrainien s'est raffermi très nettement, et par opposition à la Russie. Et puis bien sûr, depuis le 24 février, ce qui existe déjà, et parce que là c'est quand même une agression armée, il y a les morts, il y a tout cela. Et donc effectivement, c'est une séparation totale, et le sentiment national ukrainien se fait contre la Russie. Et la langue, les russophones... vont arrêter de parler russe, ils vont parler ukrainien, etc. Donc effectivement, pour des générations, Poutine a perdu l'Ukraine. Le but, son objectif, c'était de la rapprocher de la Russie. Il était à l'inverse de ses objectifs, comme d'ailleurs de la plupart de ses objectifs. Renforcer la Russie, séparer les États-Unis de l'Europe, tout ceci, c'est exactement l'inverse qui s'est produit.
Nicolas Tonev, Sébastien Lecornu, qui était à Kiev, a dit « Les Ukrainiens préparent quelque chose, c'est évident ». Jusqu'à la victoire, là, les Ukrainiens n'attendent qu'une chose, c'est d'ailleurs qu'ils gèlent pour pouvoir repartir à l'offensive.
Alors, de toute façon, les Ukrainiens, malgré la fatigue, sont clairement décidés à gagner. Ils n'ont pas le choix. Hein. Je veux dire, ils ont été envahis, ils ont perdu à peu près 20% de leur territoire. Est-ce qu'ils préparent quelque chose? Je pense que c'est très difficile de se mettre dans la tête des états-majors ukrainiens. Mais si on se souvient des stratégies et des tactiques développées par le chef d'état-major Valéry Zaloujny. En fait, c'est une personne de coup. Makivka en est la preuve. Ils ont une capacité.
Makivka, c'est cette caserne, hein, donc qui a été la cible des missiles ukrainiens.
Ouais, exactement. Donc, est-ce qu'ils préparent des gros coups ou est-ce qu'ils préparent des coups de ce genre? De toute manière, c'est une armée de coups et qui a la possibilité, avec le HIMARS et avec le César, d'agir extrêmement rapidement, puisque ce sont des armements qui sont conçus dans une optique de réaction ultra rapide. En fait, le HIMARS, par exemple, peut recevoir directement des coordonnées GPS d'une cible à atteindre via un drone, via un satellite et être mise en batterie dans les minutes qui suivent. Et la stratégie de Zaloujny, on l'a clairement vu, c'est dès que j'ai la possibilité de faire quelque chose, je le fais. Et c'est ce qui surprend énormément également les Russes qui sont encore dans un système d'attaque massive, de dispositifs massifs, et qui sont donc en permanence...
Moins agiles peut-être.
Exactement, beaucoup moins agiles et qui sont pris en permanence de vitesse sur des points pas forcément décisifs dans l'instant, mais qui sur la longueur font très mal.
Alors Pascal Boniface, face à cette détermination ukrainienne, et on peut la comprendre, ils sont dans une guerre existentielle, ils veulent reconquérir leur territoire, ce qui est peut-être... Ce qui est plus surprenant, c'est est-ce que vous avez été surpris, pardon, je pose la question différemment, des vœux d'Emmanuel Macron samedi soir qui a dit « nous vous aiderons jusqu'à la victoire ». On avait l'impression d'un Emmanuel Macron qui, jusqu'à présent, essayait de ménager un peu les Russes en parlant d'offrir des garanties de sécurité à Moscou pour le jour où il viendrait à la table des négociations. Maintenant, c'est « nous vous aiderons jusqu'à la victoire ». Et deuxième question, est-ce que la victoire pour Zelensky et pour Emmanuel Macron est-elle la même?
C'est tout le problème. Parce que aider jusqu'à la victoire, effectivement, à la limite, il l'a toujours dit. Et en même temps, on sait très bien que pour Zelensky, la victoire, c'est conquérir non seulement les territoires perdus depuis le 24 février, mais ceux perdus depuis 2014, donc y compris la Crimée. Et que sur cela, même s'ils ne le disent pas ouvertement, les Français, mais d'autres Européens et les Américains ont des doutes. Donc la théorie officielle, c'est ne pas entraver l'effort de guerre ukrainien, ne pas manquer à la solidarité, dire que c'est eux qui décideront à partir de quand ils vont décider de la victoire et donc de la fin de la guerre. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée ou des pensées différentes, en tous les cas, non seulement à Paris, mais également à Washington. Le chef d'état-major de l'armée américaine, en décembre, avait évoqué publiquement le fait que, pour lui, la Crimée, on pouvait voir un peu plus tard, pas tout de suite. Donc oui, derrière la victoire, on ne met pas les mêmes choses.
Est-ce que, Isabelle Lasserre, on a l'impression que Zelensky a envie de prendre sa revanche et même d'humilier les Russes, alors que Emmanuel Macron, sa position plus subtile était mal comprise et au fond, il met en veilleuse cette idée qu'il faut quand même garder un pont de négociation avec Moscou.
Alors, je ne pense pas que Zelensky envie, son but n'est pas d'humilier la Russie, son but est de récupérer ses territoires et de faire en sorte que la Russie ne puisse plus à l'avenir attaquer l'Ukraine, ni même d'ailleurs les voisins
mais ça, ça, de la ça Russie. Ça passe par quoi de dire qu'elle ne puisse plus jamais attaquer l'Ukraine? J'ai l'impression que certains à l'Est rêvent d'en finir avec Moscou et Poutine.
Non, alors ça, c'est la vision qu'on a à Paris et effectivement
en
Allemagne. Cette espèce d'ambiguïté qui fait que les Français comme les Allemands n'arrivent pas à se défaire de cette espèce de russophilie ou alors de volonté de ménager la Russie à tout prix. À la moitié, les deux tiers de l'Europe ne pensent pas comme le pensent les dirigeants français et les dirigeants allemands. Je crois que pour les Ukrainiens, ce que signifie une victoire et une victoire avec des garanties de sécurité, c'est deux choses. C'est récupérer intégralement le territoire de l'Ukraine. L'Ukraine est indépendante et son indépendance a été accordée par les Russes, reconnue par les Russes, garantie par les Russes au moment de la décomposition de l'URSS en 1991 par Boris Eltsine. Et après, elle n'avait pas été remise en cause. Donc l'Ukraine n'est pas russe, ni même la Crimée, puisque la Crimée, qui fait partie de l'Ukraine, avait été reconnue comme faisant partie de l'Ukraine par Boris Eltsine et par Gorbatchev aussi. Je veux dire, c'est complètement... on refait l'histoire, certains refont l'histoire aujourd'hui. Donc c'est la récupération des territoires ukrainiens plus des garanties de sécurité. C'est là que ça, à mon avis, ça va être très très compliqué, parce que qu'est-ce que c'est que les garanties de sécurité? Les garanties de sécurité pour les Ukrainiens, c'est probablement, enfin en tout cas à 80%,
Sans Poutine, voilà.
Une entrée dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'il va falloir organiser, une fois que l'Ukraine aura récupéré son territoire, si les choses continuent à évoluer ainsi, hein, il faut quand même rester très très prudent, on est quand même qu'au milieu de la guerre, enfin au milieu où j'en sais rien. Mais il va falloir organiser les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Vladimir Poutine, le président ukrainien, considérait au début de la guerre qu'on pouvait encore négocier avec Poutine. Et quand il a été élu, comme tous les présidents de la région, hein, d'ailleurs c'était les présidents géorgiens, les présidents ukrainiens, à chaque fois c'est pareil, à chaque fois qu'un nouveau président arrive, ils disent « Ok, on va essayer de s'entendre et de dealer avec Poutine pour essayer de récupérer au moins un bout de notre territoire. » Ça ne marche jamais, donc il se radicalise. à cause de l'escalade, enfin de la radicalisation de Poutine lui-même. Et au début de la guerre, Zelensky avait dit OK pour des négociations. Il avait même envisagé, en ce début de guerre, de geler le statut de la Crimée et de le mettre en parenthèse et de dire OK, on fera comme Hong Kong, on verra après. Entre-temps, il y a eu les crimes de guerre, l'escalade guerrière de Vladimir Poutine, tous les mensonges, etc. Bref, à un moment, au début de l'été, ce n'était plus possible de négocier. Il y a eu des pertes ukrainiennes énormes, les destructions des villes. Mmh, mmh. Donc, à partir de depuis le début de l'été, il n'est plus question de négocier tant qu'on n'a pas récupéré le territoire. Et désormais, il est vrai que les Ukrainiens considèrent que la paix ne pourra pas se faire avec Vladimir Poutine.
Voilà.
Moi, j'en sais rien, mais si je devais parier, ça paraît quand même très, très compliqué.
Donc, est-ce que Emmanuel Macron, pour revenir sur la position française, qui ne voulait pas, par exemple, que l'Ukraine entre dans l'OTAN et qui disait il faut garder le contact avec Poutine parce qu'un jour ou l'autre, on en aura
il
besoin.
Il est en retard, Emmanuel.
Est-ce que là, il est en train de faire son deuil de ces idées qu'il avait jusqu'à présent?
Bon, franchement, c'est très compliqué à...
Mais est-ce que cette petite phrase « nous vous aiderons jusqu'à la victoire » montre peut-être une inflexion?
Je ne crois pas, honnêtement. Sur l'Ukraine, la France a dit beaucoup de choses assez ambiguës. Dès le début de la guerre, d'ailleurs, quand on disait « macronisme » en Ukraine, à Kiev, ça faisait beaucoup rire.
Ça voulait dire hésiter.
Oui, le macronisme, je te souhaite à ta coille. C'est voilà, qu'est-ce que c'est le macronisme? C'est le gars qui décide de rien, qui a toujours peur de Poutine. Honnêtement, là, dans la population ukrainienne, la position française est totalement incompréhensible et je suis pas certain qu'à l'Élysée on a encore bien décidé ce qu'on a exactement envie de faire. Toujours justement parce qu'on a en vue de se dire qu'est-ce qu'on peut encore faire avec Poutine en fait.
Le « en même temps », ça ne marche pas quand il s'agit d'une guerre.
Le problème, c'est que ça serait bien si Poutine n'était plus là, mais il est là. Donc, soit il y a un coup d'État ou une révolution en Russie, on négociera avec quelqu'un d'autre. Mais tant que... Il n'y aura pas de victoire militaire jusqu'à Moscou. Ce n'est pas nous qui allons gagner la guerre contre Poutine. On ne va pas renverser Poutine. Il a l'arme nucléaire. Donc, dès le départ, on a dit qu'on n'irait pas jusque-là. Les deux autres scénarios, c'est qu'il décide de démissionner, dont j'ai échoué, je remets... C'est pas le genre du bonhomme. Sinon, c'est une révolution. Il faudrait qu'il perde déjà la guerre, parce que s'il perd pas la guerre, il n'y aura pas de révolution. Ou un coup d'État, disons, des gens dans l'appareil disent on va limiter les dégâts et on renverse Poutine pour faire un ravalement de façade et on va négocier. Mais sinon, je veux dire, là où quand même Macron a un point, c'est que pour l'instant, c'est Poutine qui est au pouvoir. Ça peut déplaire, évidemment. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Mais c'est lui qui est au pouvoir et c'est pas un social-démocrate pacifiste qui est au pouvoir. Donc tant qu'il est au pouvoir, un jour ou l'autre, c'est bien avec lui qu'il faudra négocier. Parce que la victoire militaire totale qui signifierait bah, on renverse Poutine parce qu'on va jusqu'à Moscou et qu'on fait le ménage n'est pas possible.
Alors, Je peux rajouter un tout petit mot ou pas?
Oui, mais...
On a deux exemples d'erreurs de la diplomatie française dans l'histoire récente. Bachar el-Assad... On n'a pas voulu négocier avec Bachar el-Assad.
Bah oui, et bah justement, on l'a payé.
Attendez.
On l'a payé.
Et finalement, 11 ans après, il est toujours là et la France a été marginalisée en Syrie. Ça, je pense qu'Emmanuel Macron a ça en tête.
On a dit, on va pas faire deux fois la même erreur.
Autre exemple, juste avant la chute du mur, Gorbatchev. On a soutenu Gorbatchev. On n'a pas cru en Yeltsin. Et on s'est complètement planté. Ouais.
Donc,
Yeltsin, c'est une catastrophe pour la Russie.
N'empêche que c'est Yeltsin qui est arrivé au pouvoir. Donc
il faut savoir miser sur le bon cheval, mais être dans le bon tempo. Et c'est aussi ça qui est parfois
reproché à Emmanuel Macron. Savoir que les dirigeants, même les dictateurs, peuvent rester ou partir.
En tous les cas, il est une réalité, c'est que depuis le début de cette guerre en Ukraine, c'est le grand retour des Américains sur le continent européen. Des Américains qui pourtant voulaient se détacher un peu des affaires européennes. Eh bien, ils sont revenus... à grand renfort et pour le plus grand bonheur des Ukrainiens et des pays d'Europe de l'Est qui ont très peur de Moscou. Vous voyez ce sujet de Diane Schlinger, Guillaume Beaufils et Emmanuel.
En 10 mois, l'armée russe a conquis 66 000 km² ukrainiens, l'équivalent de la surface de l'Irlande. Vladimir Poutine comptait ainsi éloigner l'OTAN de ses frontières. Son attaque a eu l'effet inverse. L'organisation du traité Atlantique Nord a repris des couleurs et s'élargit. Avec la Suède et la Finlande qui sortent de leur neutralité historique. La Bosnie, Géorgie et Ukraine qui se portent candidats. 40 000 hommes de l'OTAN, trois fois plus qu'avant la guerre, sont désormais déployés sur le front Est, prêts à réagir à tout instant.
L'OTAN n'a jamais été aussi uni qu'aujourd'hui. Poutine obtient exactement le contraire de ce qu'il espérait en entrant en Ukraine.
L'Union européenne reste solidaire derrière l'Ukraine. Mais pour affronter les conséquences du conflit, chaque pays préfère jouer sa propre carte. Le couple franco-allemand est moins uni. L'idée d'une défense européenne semble presque dépassée, car le centre de gravité du vieux continent se déplace à l'Est. Et face à la Russie, le salut ne semble plus possible sans les États-Unis.
Pascal Boniface, est-ce qu'on peut dire qu'on est bien content d'avoir les Américains, parce qu'ils sont bien, bien utiles face aux menaces russes, mais en même temps, voilà, de fait, l'Europe est sous tutelle américaine.
Sous tutelle, mais en tout cas sous dépendance. Sous dépendance, c'est clair. On peut dire que Trump avait beaucoup fait pour unifier l'Europe, et Poutine a beaucoup fait pour unifier l'Europe aux États-Unis. Parce qu'effectivement, jamais, et Biden a raison, quand il dit que jamais l'OTAN n'a été aussi forte, deux nouveaux membres, des pays qui étaient neutres, la Suède neutre depuis plus de 200 ans. La Finlande, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ne jugeait pas utile de rejoindre l'OTAN quand Staline était au pouvoir et qui estime qu'il est indispensable de le faire maintenant. Donc l'OTAN n'a jamais été aussi forte et aussi unie. C'est une réalité. Macron disait que l'OTAN était en état de mort cérébrale en novembre 2019. Aujourd'hui, c'est le vieux projet français d'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. L'Europe à la fois se renforce militairement, mais s'affaiblit, je dirais, stratégiquement parce qu'effectivement, elle est beaucoup plus dépendante des États-Unis qu'auparavant. Ce qui est quelque part paradoxal parce que on vient de dire que l'armée russe n'était pas performante, le moins que l'on puisse dire. Et donc, malgré les piètres performances de l'armée russe en Ukraine, le sentiment prédominant en Europe, c'est que c'est une menace terrible et que seuls les Américains peuvent nous protéger contre cette menace militaire. Alors que les Russes ne sont même pas capables de garder les territoires qu'ils ont juridiquement, selon leur droit à eux, annexés dans le Donbass.
Isabelle Lasserre, donc est-ce qu'on peut dire que l'Europe de la défense est en état de mort cérébrale? Et est-ce que les Américains seront toujours là? Je dis ça parce qu'on se souvient de Donald Trump, on disait qu'il voulait sortir de l'OTAN. Et donc dire, attends, amis européens, vous vous débrouillez, on n'enverra plus nos boys pour vous soutenir.
Oui, je serais assez d'accord avec l'expression de Pascal Boniface, l'autonomie stratégique en état de mort cérébrale.
Cette idée que l'Europe se défend elle-même et que...
C'est-à-dire qu'en fait, à l'épreuve des faits, force est de constater que le seul pays qui est capable de fournir suffisamment d'équipements militaires aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre contre l'agression russe, c'est les États-Unis. L'Europe s'est désarmée depuis... La chute du mur de Berlin, parce qu'elle a cru en fait à la paix définitive et à la fin de l'histoire en Europe. Donc des armées se sont, même quasiment certains pays n'avaient plus du tout d'armées, et même la principale armée européenne, la française, hein, avec la britannique, a vu son budget constamment diminuer pendant 30 ans. Donc à l'arrivée, on n'a plus assez de stocks, on n'a plus assez de forces militaires pour être capable d'aider les Ukrainiens sans se dépoiler nationalement. Donc effectivement, que pensent les pays de l'Est et que pensent les pays encore neutres il y a 6 mois, c'est que les seuls capables de défendre l'Europe contre la menace russe, c'est les États-Unis. Alors en même temps, il y a depuis le début de la guerre, une espèce de regain du sentiment d'appartenance un monde occidental, il y a la renaissance de l'idée d'Occident face en fait à cette menace qui est un mélange de en fait d'empire russe et de communisme soviétique. Et vous avez raison de le souligner. De l'autre côté, moi, cette autonomie stratégique européenne me paraît absolument indispensable parce que l'histoire récente a prouvé qu'on ne pouvait pas faire confiance toujours aux États-Unis. En Syrie, Barack Obama s'est débiné au dernier moment quand il a fallu frapper Bachar el-Assad après une nouvelle attaque chimique en 2013, alors que les moteurs des avions français étaient déjà allumés. Dans le Pacifique, les États-Unis nous ont volé un contrat de sous-marin avec l'Australie. C'était quand même pas très fair-play pour des alliés. Et puis le projet américain, c'est quand même toujours America First. Et c'est surtout le pivot stratégique. C'est-à-dire la principale menace, c'est la Chine. Et les gars, vous êtes sympas, mais au Moyen-Orient et en Europe, débrouillez-vous. Maintenant, vous êtes assez grands, mais quand même, juste dernière phrase, ben on choisit pas toujours ses engagements militaires. Une guerre en Ukraine, pour l'instant, ça a ramené les États-Unis en Europe.
Est-ce que l'Europe est plus sous influence de ces pays d'Europe centrale, comme la Pologne, les États baltes, qui sont très atlantistes ? Parce qu'à Varsovie, au fond, s'il fallait voter, on préfère Washington à Bruxelles, pour faire simple.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on préfère voter pour les gens qui comprennent réellement ce que c'est que la menace soviétique. En fait, très longtemps, toute cette frange d'Europe centrale et de l'Est, on leur a dit « Non, mais la Russie, c'est pas si grave, l'Union soviétique, c'est pas si grave. » Et eux le vivaient de l'intérieur. Et donc, aujourd'hui, en fait, on commence à comprendre ce que c'est vraiment, ce qu'eux ont vécu pendant 70 ans, depuis 1945, avec ce qui se passe en Ukraine. Et donc, nos mentalités évoluent également en fonction de cela. Et pour revenir à l'autonomie stratégique européenne, très rapidement, en fait, là où on a un problème, et c'est ce que disait Isabelle, on a démilitarisé pendant 30 ans. Ouais. Et remilitariser, ça prend beaucoup de temps. Produire un canon César, c'est plus d'un an. Produire un nouvel avion de combat comme le SCAF, ça va nous prendre 20 ans. Et donc, en attendant, on se sert sur étagère chez les Américains qui ont du matériel disponible, récent, performant. Et donc, on n'a pas le choix.
Et Pascal Boniface, est-ce qu'on n'est pas quand même les dindons de la farce dans cette histoire ? On a vu Zelensky aller à Washington, et c'est bien normal. Mais du coup, on avait l'impression d'un Zelensky qui va faire des cours bêtes chez les Américains et qui a des reproches ou du ressentiment contre les Européens. En tous les cas, n'est pas venu en Europe. Et au fond, on va réclamer des sous à Bruxelles en râlant. Et on va dire merci et bravo aux Américains.
C'est pour les Polonais. Et les Polonais, ils ne sont pas européens, sauf pour les crédits. Et grâce aux crédits européens, les fonds structurels, ils achètent des armes aux États-Unis. Effectivement, l'Ukraine voit que les équipements militaires viennent plutôt des États-Unis. Donc, ils vont à Washington. Il y a aussi besoin d'avoir un soutien des Républicains parce que Zelensky craignait qu'un changement de majorité ne vienne diminuer un peu le soutien bipartisan à l'Ukraine. Et c'est vrai qu'il est, disons, plus exigeant avec les Européens qu'avec les États-Unis. Avec les Européens, il peut se permettre de donner des leçons, ce qu'il ne fait pas aux États-Unis. Le problème, c'est que les crédits ensuite pour la reconstruction, ils risquent plus de venir d'Europe que des États-Unis. Mais la reconnaissance, elle ira plutôt aux États-Unis qu'à l'Europe.
En tous les cas, sur le plan économique, ce sont surtout les Européens qui, à ce jour, payent un lourd tribut de cette guerre en Ukraine. Les entreprises françaises, qui était le premier investisseur en Russie étranger, eh bien, les entreprises françaises sont parties. Et à la place, au pied levé, ces entreprises françaises ont été remplacées par des entreprises chinoises. Regardez ce reportage, c'est un concessionnaire Renault qui aujourd'hui vend des voitures chinoises. Ça se passe à Moscou. C'est un reportage de Lionel Feuerstein.
Dans la banlieue de Moscou, changement de décor pour ce concessionnaire auto. Sur le haut du bâtiment, la marque Renault a été enlevée. Sur le parking, une seule voiture française reste à vendre. Le constructeur parti de Russie, suite au conflit en Ukraine, a été remplacé par une marque chinoise.
Bonjour.
Nous rentrons à l'improviste. Les anciens vendeurs Renault préfèrent ne pas trop s'étendre sur le sujet.
Ça ne change pas beaucoup, les volumes sont les mêmes, on se développe.
La Chine, c'est désormais une vente sur trois de voitures neuves. Pékin commerce avec la Russie et exporte ses marques sans difficulté. Ses clients viennent de tester ce nouveau modèle.
Les marques chinoises proposent la même chose. Les mêmes caractéristiques que l'on retrouve chez BMW et Mercedes.
Le départ précipité des constructeurs occidentaux laisse ses propriétaires déboussolés.
Oui, c'est embêtant. Les pièces détachées, l'entretien, c'est problématique. Je ne sais pas comment ça va se passer après. Je n'ai plus que 3 jours de garantie.
Les voitures françaises ont disparu. Tout cela est très triste.
D'autres secteurs sont convoités par la Chine. L'habillement, par exemple. En un an, ses exportations en Russie ont été multipliées par 10. Autre pays, la Turquie, elle aussi essaye de s'imposer dans le textile.
Il y a des chaînes turques qui travaillent déjà depuis un moment en Russie, comme Cotton, Russie Waikiki, Superstep, qui se développent et qui absorbent les mètres carrés vacants.
À Moscou, la majorité des grandes enseignes françaises, italiennes ou espagnoles sont fermées. À côté, les chaînes russes, encouragées par le gouvernement, se développent. Comme Gloria Jeans, qui a ouvert cette année 75 boutiques. Un made in Russie, qui semble ne pas déplaire aux consommateurs.
C'est super. La production russe va augmenter.
La Russie va s'en sortir avec tout ça.
Symbole de cette contre-attaque commerciale russe, Stars Coffee. La marque a repris tous les signes du géant américain Starbucks, dont elle a racheté l'activité. Pour son directeur, le départ des Occidentaux ne change pas grand-chose.
Les gens s'adaptent très vite, vraiment très vite. Nous, par exemple, on importe du café du Brésil, mais nous le torréfions ici, en Russie. Tous les autres ingrédients viennent aussi d'ici.
Le Kremlin, il est vrai, rêve toujours d'une production 100% locale, évidemment impossible. Pour survivre, le régime a besoin de ses partenaires étrangers, essentiellement asiatiques.
Comment les Russes vivent-ils cette désoccidentalisation, j'y suis arrivé, de leur mode de vie? Ou alors, comme du temps de l'URSS, on a ou des choses fabriquées locales, ou alors des voitures chinoises, quoi.
Alors d'abord, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut se remettre en tête l'immensité du pays. Donc vous avez avant l'Oural une partie russe qui est extrêmement occidentalisée, qui va prendre ses vacances côté occidental. Et vous avez derrière l'Oural toute une partie immense qui va jusqu'à l'océan Pacifique et qui, elle, vit depuis déjà longtemps à l'heure chinoise, à l'heure japonaise. Et par exemple, quand je vois le reportage sur les voitures russes, sur les voitures chinoises, pardon, l'habillement chinois, si vous allez dans des villes d'Extrême-Orient comme Blagoveshchensk, qui est une grosse ville sur le fleuve Amour, comme sur Amour, Vladivostok, vous avez des marchés chinois immenses. Les voitures sont ou japonaises ou chinoises. Donc en fait, quelque part, c'est un déplacement d'un fait déjà existant sur ce territoire qui, il ne faut pas l'oublier, va de l'Allemagne, enfin de la Pologne.
En fuseau horaire.
En fuseau horaire, voilà.
Pascal Boniface, est-ce que si dans cette relation, dans cette Russie qui bascule vers la Chine, la Russie ne se met pas en partenaire un peu junior face à la grande Chine?
C'était déjà le cas. Le rapport de force entre Pékin et Moscou, y compris avant la guerre, était quand même à l'avantage de la Chine. D'où d'ailleurs la difficulté pour Poutine. Poutine ne voulait pas trop tomber dans une dépendance à l'égard de la Chine, mais là, il n'a pas tellement d'autres solutions. Alors, il n'a pas que la Chine comme partenaire. Il a l'Inde, il a le Brésil. Les BRICS n'ont pas coupé, grosso modo, les pays non occidentaux n'ont pas coupé les ponts avec la Russie. Mais on voit bien que aujourd'hui, son principal partenaire, sa principale carte maîtresse diplomatique, c'est la Chine. Et du coup, les Chinois en profitent parce qu'ils font pas ça gratuitement. Certes, ils ne veulent pas qu'il y ait une défaite de la Russie qui serait une victoire occidentale pour cette raison, mais en même temps, ils profitent là. Je veux dire, Renault est parti sans rien demander. Donc, c'est tous les avoirs. Je crois que la France a dû abandonner 18 milliards d'euros en Russie parce qu'il fallait partir. Ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Et la Chine, effectivement, augmente ses parts de marché.
C'est un coup de canif, en tous les cas, Isabelle Lasserre, dans la mondialisation. Alors, les entreprises occidentales savent maintenant, et elles ont payé pour voir, que faire du business avec dans les pays autoritaires, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. D'ailleurs, ça fait peut-être réfléchir pour les entreprises qui sont très installées en Chine, non ?
Vous savez, il suffit qu'un nouveau pouvoir arrive à Moscou pour que les choses, dans 10 ans, retournent à la normale. On a eu l'Iran, par exemple...
Peugeot était prêt à y retourner dès la levée des sanctions.
Donc dès que la situation économique le permet à nouveau et dès que les sanctions sont levées, l'investissement économique continuera à se marier avec des régimes politiques si autoritaires futiles. Enfin, c'est pas Ce qui est très embêtant, c'est que ça fait la France est en train de se faire éjecter entre guillemets de nombreux endroits dans le monde. Alors là, c'est une éjection volontaire. On retire parce qu'il faut sanctionner le régime russe. Mais les Chinois ont déjà remplacé en partie la France, surtout les Russes, mais aussi en partenaire, parce que là, en Afrique, c'est les Chinois qui sont le partenaire junior des Russes pour l'instant. Et c'est vrai que la France a aussi perdu au niveau militaire une partie des emprises qu'elle avait, notamment au Mali, en République centrafricaine. Et c'est les Russes, puis les Chinois qui prennent la place, de la France. À l'arrivée,
On pourrait tourner les mêmes images à Dakar, vous êtes en train de dire, presque.
Non, parce que les Russes sont plus engagés militairement avec Wagner que ne le sont les Chinois, qui les Chinois sont influents dans l'économie.
Dans l'économie, oui.
Mais... les Européens et les Français sont en train d'être remplacés par les Chinois dans de nombreux endroits.
Comme on vient de le voir.
Alors, on a l'impression quand même aujourd'hui, au bout d'une petite année de guerre, que le principal gagnant, en fait, de cette guerre, c'est la Chine. C'est la Chine qui, en fait, prend quand même la tête de ce monde anti-occidental, du modèle alternatif qu'ils veulent imposer sur la scène internationale. C'est la Chine qui investit économiquement qui récupère les entreprises qui sont désertées par les Occidentaux. C'est la Chine qui vassalise la Russie, parce que la Russie dépend du soutien politique de la Chine, parce qu'il n'y a pas que le soutien économique, il y a le soutien politique, c'est-à-dire qu'au Conseil de sécurité et partout, pour l'instant, la Chine soutient politiquement la Russie, militairement.
Pour terminer sur une note d'optimisme, Pascal Boniface, on peut aussi dire que les démocraties ont tenu bon, qu'elles sont solidaires et que les pays autoritaires, ils ont bien du mal à imposer par la force de la baïonnette leur volonté.
Oui, ils ne gagnent pas toujours. En Iran, c'est difficile et on peut dire que la démocratie a triomphé au Brésil, par exemple. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Bon, mais ceci étant, c'est vrai que la situation internationale n'est pas très avenante.
2023, et on peut le lire dans Géopolitique, 50 idées reçues sur l'état du monde aux éditions Armand Collin, c'est votre livre. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.